petit philosophe dans le vaste monde. Une émission proposée par Bernard Ribal. Bernard Ribal, essayiste, agrégé et docteur en philosophie.
Attendons de voir quelles sont les possibilités du nouveau gouvernement pour savoir si la dissolution de l'Assemblée nationale est oui ou non une clarification de la politique. Mais dès à présent, on peut dire que cette dissolution s'inscrit dans un obscurcissement de l'avenir sociétal. Sociétal se distingue de social. La réforme des retraites est du domaine social. L'aide à mourir est du domaine sociétal. Dans les écumes de la post-dissolution, j'ai beaucoup entendu parler de la réforme sociale des retraites, d'ailleurs sans bien comprendre les solutions des uns et des autres. Alors certes, la réforme des retraites est très importante. Ce n'est pas l'ancien dirigeant syndical que je suis qui dira le contraire. Mais quand même, nom de nom, la réforme de nos fins de vie est un enjeu de civilisation. C'est une réforme sociétale, c'est-à-dire qui porte sur le sens de nos vies, sur les valeurs fondamentales de l'humanisme. Et cela, quelle que soit notre opinion à ce sujet. Ce n'est pas comme une réforme sociale, c'est-à-dire un meilleur arrangement de nos vécus. Non, l'aide à mourir s'entend comme un séisme existentiel, qu'on s'en réjouisse ou non. Or, silence radio et silence plateau télé. Presque pas un mot à ce sujet, malgré une saturation des ondes pour des propos moins graves. Pourtant, le projet de loi sur l'aide à mourir était en pleine actualité, la veille même de la dissolution de l'Assemblée nationale. La dissolution est du 9 juin. Or, l'article 5 de la loi sur l'aide à mourir était adopté le 6 juin par les députés et l'article 6 le 7 juin, l'avant-veille de la dissolution. Et là, stop, dissolution, les députés ne pouvaient plus discuter ou voter la suite. Eh bien, il n'y avait plus de députés, c'était la raison. Mais il y a pire que cet arrêt brutal et ce silence sur une législation aussi grave. Pour jongler avec les chiffres et les majorités relatives, on nous a rabâché qu'il y avait 577 députés. Eh bien, savez-vous combien participaient début juin à l'élaboration de la loi sur la fin de vie? Même pas le quart des députés était au Palais Bourbon. L'article 5 a été voté par 88 voix contre 50, et l'article 6 par 51 voix contre 24. Je rappelle, il y a presque 600 députés. Je n'ai pas l'habitude de stigmatiser la classe politique, ni pire, ni meilleure que toute la société, mais là quand même, s'agissant, selon les dires des plus hauts responsables de l'État, de la loi la plus importante sur la présidence d'Emmanuel Macron, c'est une catastrophe parlementaire, une imposture. L'essentiel du projet de loi sur l'aide à mourir est dans son article 5, à savoir, je cite, accompagner une personne qui en exprime la demande à recourir à une substance létale, c'est-à-dire une substance mortelle, et je poursuis la citation, soit la personne s'administre la substance létale, soit, lorsqu'elle n'est pas en mesure physiquement d'y procéder, la personne se la fait administrer par un médecin ou un infirmier. Bref, un tiers peut donner la mort à la demande plus ou moins ambiguë d'une personne. Jusqu'à ce jour, ça s'appelait un meurtre avec préméditation, avec peut-être circonstances atténuantes, mais très difficile à cerner ces circonstances atténuantes. Donner la mort, est-ce un soin? Beaucoup de soignants pensent que non. Faciliter le suicide, est-ce un bon exemple à donner aux adolescents qui souffrent d'un certain mal-être? Depuis longtemps, la médecine et le droit n'avaient pas d'autre objectif que d'aider à vivre et non d'aider à mourir. C'était notre politique de civilisation. Ce précédent ouvre une boîte de Pandore. Ceci dit, je sais bien que la gestion des fins de vie n'est pas un problème de philosophie qui ne se traite que dans les universités. C'est souvent une tragédie qui engage l'esprit et aussi le corps. La philosophie peut être traitée de tout, d'accord, mais le philosophe peut aussi humblement prendre acte d'un trouble de la pensée autour de l'imminence de la mort. C'est une prise de conscience qui empêcherait de dire beaucoup de bêtises, provoquant d'ailleurs ces bêtises pour ceux qui souffrent. L'article 6, voté le 7 juin, avant la veille de la dissolution, je répète, semble, lui, ne porter que sur des détails. Mais on le sait, le diable se cache dans les détails. Cet article traite des 5 conditions tout indispensables pour avoir accès à l'aide à mourir. D'abord, avoir au moins 18 ans. Alors, 18 ans pourquoi? C'est l'âge de la majorité électorale, mais quel rapport? La majorité sexuelle ou celle de justiciables sont en baisse, mais dans leur grande sagesse, entre guillemets, les députés ont fini par garder 18 ans. Autre condition, être de nationalité française ou résider en France de façon stable. Au départ, on se demande pourquoi un étranger n'aurait-il pas besoin de la soi-disant aide à mourir. En fait, il ne faudrait pas, pensent nos députés, que les pays qui interdisent l'aide à mourir laissent partir leurs ressortissants vers la France. L'aide à mourir est-elle si attractive? La troisième condition a été beaucoup plus débattue. Il s'agit de l'obligation d'un diagnostic médical stipulant un pronostic vital engagé à court ou moyen terme. Des députés d'un peu tous les bords ont fait remarquer qu'il était impossible, médicalement, de prédire l'espérance de vie d'un malade, même incurable. Ceci trahit une difficulté humaniste fondamentale. L'aide à mourir a-t-elle le droit? Arbitrairement, faute de garantie scientifique. Donc l'aide à mourir a-t-elle le droit de raccourcir la vie sans savoir de combien de temps? Et dès lors, sans savoir de combien d'opportunités de la recherche scientifique future pour de nouvelles thérapies. Finalement, la loi gardera pronostic de vie engagée sans préciser à court ou moyen terme. L'équipe médicale restera dans le flou. En condition suivante, de l'aide à mourir, le projet de loi envisage le cas de souffrances psychologiques indépendamment des souffrances physiques. Eh bien, puis-je me permettre de dire que c'est n'importe quoi. Comment peut-on garantir la lucidité de la décision de mourir pour des malades mentaux? Et la dernière condition, être apte à manifester sa volonté de manière libre et éclairée. Alors là, comment peut-on s'en assurer? Heureusement, les fameuses directives anticipées ne suffiraient pas et ne suffisent pas. Vous savez, les lettres écrites à l'avance, en pleine santé, pour dire son choix de fin de vie. En fait, rien n'est décidé à ce sujet. À la nouvelle assemblée, donc, de légiférer. Mais pourquoi tant de remises en cause de notre civilisation? Alors qu'il n'y en avait nul besoin. Nul besoin depuis la loi Clay-Leonetti de 2016, qui a permis un compromis assez consensuel pour s'en tenir, je cite, à une sédation, c'est-à-dire un calmant, à une sédation profonde et continue jusqu'au décès. Fin de citation. Nul besoin de parler de suicide ou d'euthanasie. Et les malades incurables pouvaient s'endormir. Cette loi de 2016 prévoyait la mise en œuvre des soins palliatifs dont tout le monde se félicite. Sauf qu'il n'y a pas assez de structures prévues à cet effet. Il est vrai que l'aide à mourir coûte moins cher que les soins palliatifs. Vive la civilisation.
C'était Petit philosophe dans le vaste monde, une émission de Bernard Ribal.